Bonsoir à tous et bienvenue à ce tout nouveau podcast de Triple Option. Une gracieuseté de Triple Option est présentée ce soir par Veuve Clicquot. Veuve Clicquot, le champagne des champions.
No free hats.
Pour ceux qui nous écoutent en audio, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur Twitch, twitch.tv/sportlucide pour la surprise qui vous attend. Vous n'êtes pas prêtes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, on a un très gros show alors qu'on s'attaque aux deux plus grosses conférences du pays. Les prédictions pour la Big Ten et la SEC. On poursuit le tout avec nos prédictions pour la saison. Overall, d'un peu tout et n'importe quoi. Et finalement, on vous parle de la semaine 1 qui s'annonce pas tant des plus excitantes, mais c'est du football de la NCAA, du football de haut niveau, le meilleur football qu'on peut se mettre sous la dent au pays. Donc, c'est excitant pour ces raisons-là. Avant de commencer, il est de retour, mesdames et messieurs, Dion, avec une petite semaine de break. Quand il savait qu'on allait parler de Michigan et de Ohio State aujourd'hui, il ne pouvait pas s'empêcher d'être là. Comment ça va, mon vieux?
Ça va très bien, messieurs. Écoute, on parle des deux meilleures conférences au pays. On n'a pas le choix. Les deux meilleures conférences au pays, ex aequo, c'est bien important de le mentionner, Big Ten et SEC, les deux meilleures conférences au pays. Très content d'être là, très excité d'en parler.
Yes, cher mon vieux, merci beaucoup d'être là. Et comme toujours, mon bon vieux compatriote Wallet, comment ça va mon pote?
Bon numéro un, content d'être là. Écoute, comme tu as dit, c'est pas la semaine 1 la plus excitante, mais quand tu te rends compte qu'il y a 5 journées de football cette semaine, regarde, on va prendre ce qu'on a, puis comme qu'on se disait avant d'être live, on peut avoir des upsets, puis c'est là que ça devient intéressant. On met des bâtons dans les roues aux grosses équipes, puis ça commence, puis c'est pas fluide, on aime ça. Fait que je suis excité de voir ce qui va se passer. Puis naturellement, on fait nos prédictions, on parle des deux plus grosses conférences. On a eu 2 semaines pour mettre de l'huile dans l'engrenage. Je pense qu'on est full speed, puis ça devrait être un bon podcast ce soir.
Yes. Alors, avant de commencer, les boys, j'ai une question de quelqu'un qui a slidé dans mes DM. J'ai besoin de votre aide pour y répondre parce que j'avais des axes de réponse, mais je n'étais pas sûr de comment faire ça. Il y a un de mes compatriotes qui vient me voir qui dit « Bon matin, j'ai une question pour toi. J'aimerais être plus fan de la NCAA. Là, je le suis, mais sans être un vrai fan d'un club. Avec les nouvelles conférences qui seront actives l'année prochaine, tu me conseilles quelle équipe à suivre davantage? Une équipe qui est plus probable de passer à la télé que je pourrais écouter plus de matchs. » Il dit « Évidemment, sauf Georgia parce que... » Il y a trop d'anciens avec Philly. Je pense que c'est pas un fan de Philly de son côté à lui. Donc, là, j'ai voulu y trouver, y faire une réponse, une salade de réponse, puis j'ai dit, mais ça dépend quel genre de fan t'es. Si t'es un fan qui aime ça gagner, ben tu prends évidemment des équipes qui sont souvent dans le top 10, qui prennent souvent dans le top 25, puis qu'année après année, ont une chance d'avoir le top 4, surtout avec l'arrivée des playoffs à 12 équipes. Ben tu sais, tu prends une équipe qui a un potentiel de rentrer là. Tu peux y aller avec aussi des équipes qui sont les underdogs. Moi, j'aime beaucoup les underdogs. Donc, des équipes qui ont le potentiel de faire des upsets.
Fan de Bama.
Semaine après semaine. Donc, on est capable d'y aller avec des underdogs, puis on est capable de toujours avoir une belle surprise. Fait que tu peux être déçu longtemps ou tu peux avoir une belle surprise. Si tu as peur de rien, si tu es fearless, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre une équipe qui s'est habituée de choquer. Donc, j'ai recommandé de prendre Oregon parce qu'on le sait qu'à un moment crucial, Oregon sont tout le temps en train de chier dans la pelle. Donc, je me demandais à vous, les boys, quelle équipe ou quel conseil vous pourriez donner à ce jeune fan-là, néophyte un peu de NCAA, qui lui permettrait d'aimer une équipe, mais qui passe souvent à la télé au Québec. Wallet, as-tu une idée? Là, tu flashais ta casquette de LSU, je comprends, là. Mais est-ce que Louisiana State University passe souvent dans nos TV à nous autres? Là?
La réponse logique, si tu veux voir l'équipe souvent à la télévision, c'est Notre Dame, parce qu'ils ont un contrat exclusif avec NBC, donc tous les matchs locaux de l'équipe sont à NBC. Puis quand ils ne sont pas locaux, mais souvent Notre Dame, ont un horaire national, donc ils se déplacent sur la route pour aller jouer à Clemson, à Ohio State, à USC. Donc, c'est des matchs qui vont être télédiffusés sur des gros postes de télévision américaine. Donc, Notre-Dame est probablement l'équipe qu'on va voir le plus souvent sur nos téléviseurs. Mais en tant que nouveau fan, il faut qu'on t'avertisse qu'il y a un gros changement qui arrive en 2024. Puis tu le sais, c'est le réalignement, mais aussi les contrats de TV des équipes. Donc, la SEC va être associée à ESPN, qui est TSN, ABC. Puis, la Big Ten va être associée avec NBC, CBS puis Fox. Donc, c'est vraiment ces deux conférences-là que tu vas voir le plus souvent à la télé. Comme tu as dit tantôt, Faf, il y a des équipes qui sont au sommet, ça fait 10, 15, 20 ans. Naturellement, on va voir Ohio State plus souvent. Naturellement, on va voir Alabama, Georgia, LSU plus souvent, Michigan plus souvent. Donc, si c'est vraiment tu veux une équipe que tu vas voir souvent à la télévision, c'est les gros noms que je viens de nommer, les powerhouse, puis tu te fais une idée selon l'historique de l'équipe, puis...
Ben ça aussi, j'ai parlé si t'aimes une équipe qui a une histoire. T'sais, mettons une équipe comme Notre-Dame. Mais t'sais, Notre-Dame, c'est une équipe indépendante, toute l'équipe, mais on sait qu'il y a comme un aura quasiment holy là, autour de cette équipe-là. Donc, si tu tripes là-dessus, ça peut être aussi intéressant, ce genre d'équipe-là. Toi, disons, tes recommandations de « do or don't » au niveau d'être un fan d'une équipe, ça serait quoi?
Ouais, voilà, t'as comme amené plein de points comme rationnel, intelligent, pensé.
C'est rare.
Je suis impressionné. Moi, tu sais, je suis plus là souvent. Peut-être que j'ai apporté des affaires plus niaiseuses que d'habitude. Mais la bonne réponse et la meilleure réponse, c'est la mascotte. Choisis ton équipe selon la mascotte. Parce que c'est la seule chose qui reste. Tous les joueurs partent, les coachs peuvent se mettre dehors, mais ton gros Chris de Buffalo ou ton cute, ton chien ou ta grosse tête de noix, ça reste ça. Fait que prends une équipe que t'aimes la mascotte parce que tu vas pouvoir l'avoir à chaque année.
C'est quoi la mascotte de Stanford? C'est sûr, le gros cactus?
Un gros
un sapin qui est sur
crack. Un sapin creepy en sacrament, man. pour vrai, les mascottes, des fois, c'est comme si ils l'arrangent. Les Mountaineers, comme une espèce d'homme des bois, c'est très drôle. L'orange de Syracuse, c'est une grosse orange. Spider the Spartan, qui est top 5 des mascottes.
Puis une autre chose aussi qu'on a déjà parlé historiquement dans le podcast, c'est je parlais tantôt des programmes qui ont des histoires, mais aussi il y a les traditions qu'il y a à chacun des programmes. T'sais, des fois, s'il y a une musique que t'aimes ou s'il y a des feelings de stade, parce que le but final d'être un fan d'une équipe, c'est d'aller potentiellement les voir jouer. Donc, si tu prends pour une équipe est-ce du Wisconsin qui fait moins 40 au mois de novembre, tu vas trouver le temps long en crise s'il n'y a pas un jump around, un mané qui part au début du troisième quart. Là, fait qu'il faut quelque chose qui t'amène au stade et qui te crée un hype. Fait qu'il y a ça aussi que tu peux prendre en considération.
Le conseil que je ferais, c'est un peu comme notre ami Frank Perron. Frank Perron, qui est quand même discret. Là. J'espère qu'il nous écoute. S'il nous écoute, viens nous écrire sur X. Mais Frank Perron a pris un an ou deux. Il disait, les boys, j'aime bien cette équipe-là, mais là, cette année, je vais me choisir une équipe. Puis je pense, c'est-tu l'an passé ou le deux ans qui nous est arrivé en décembre, qui nous a dit, les Tar Heels de North Carolina, c'est mon club, j'aime leur couleur, j'aime leur uniforme, je veux m'acheter du gear de cette équipe-là. C'est une autre raison qui semble un peu weird, mais c'était pour t'acheter du gear d'une équipe aussi bien aimer les couleurs. C'est pas tout le monde qui aime le mauve ou le bleu poudre. Donc, tu vois, moi et Frank, on est bien dans notre masculinité avec du mauve et du bleu poudre.
J'aime votre ouverture d'esprit, tu m'enverras tes pronoms en DMs aussi. On va continuer ça. Show-là. Merci les boys pour vos conseils, Marc-André. Je t'en prie d'écrire sur Facebook pendant qu'on répondait. Fait que t'iras nous écouter, mon vieux. Puis tu choisiras une équipe là-dedans. Puis si tu veux des conseils plus judicieux, n'hésite pas à nous écouter à chaque semaine. On commence tout de suite avec un segment nouvelle. Petit segment, mais quand même là. Yes, donc Wallet, sans dire qu'il y a des nouvelles officielles, des grosses nouvelles, il semblerait qu'il y a des développements justement au niveau des réalignements. Parle-moi de ça, c'est plus vite, plus tard, plus tôt, qu'est-ce qui se passe?
Ben là, écoute, qu'est-ce qui se passe, c'est que dans la Pac-12, qui va être la Pac-4, donc 4 équipes l'année prochaine, il y a des nouvelles comme quoi que la ACC, la conférence de l'Atlantique avec Clemson, North Carolina, Miami, voudrait recruter Stanford, Cal et SMU, qui est une équipe de Dallas. Mais ce n'est pas toutes les équipes qui sont en accord avec ça. Les plus récentes rumeurs, c'est que c'est ça qui se négocie en ce moment. Si ça n'arrive pas, la Big 12 serait intéressée à récupérer les 4 équipes restantes de la Pac-12 pour devenir la Big 22, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il faut être rendu à 22 équipes.
Mais là, si je comprends bien, ils sont intéressés par 3 équipes qui restent dans la division de 4 équipes.
La ACC est intéressée par Stanford, Cal, puis SMU qui est dans la American.
Ouais.
Donc, avoir 3 équipes. Mais comme je te dis, la division, la ACC, il y a des directeurs d'équipe, des directeurs athlétiques qui ne seraient pas en faveur de ça. Puis si le deal, s'il n'y a pas d'entente officielle, semblerait-il que la Big 12 irait ramasser les quatre équipes restantes de la Pac-12 qui sont Stanford, Cal, Washington State, Go Cougs et les Beavers d'Oregon State.
Mais donc, jaser pour jaser, là, comme... Tu as comme la NCAA qui chapeaute tout ça, puis là, chaque conférence, là, ils ont leur board, ils ont leur CA, ils ont leur... Là, t'es comme... Tes équipes, parce que t'as pris une décision de mon rond, on va le dire, là, signé avec Apple, peu importe, t'as pris des décisions qui fait que les équipes n'ont pas d'argent, fait qu'ils sont fâchés, fait qu'ils s'en vont, puis t'as aucun contrôle pour les retenir, t'as aucun leverage pour les retenir. Ouais. Demain matin, là, si ces quatre équipes-là se joignent une nouvelle conférence, là, la Pac-12, là, le board, là, les dirigeants, le PDG, le CFO, name it, là, ils vont coller quoi, ce monde-là, genre, ils vont se faire sacrer d'or, comme si ça va...
Ils vont mettre leur CV à jour sur LinkedIn, puis ils vont espérer se faire engager. Bon résumé. Ouais, peut-être que résumé. Bud Light va les engager pour revivre leur image.
OK, parfait. Ouais, c'est assez spécial ce qui se passe avec ça. Est-ce que ça s'est déjà vu historiquement qu'il y a une conférence qui ferme? De même, y a-tu, à une certaine époque, là, la Big Eight, puis qui a fermé?
La Big East, qui est encore une conférence de basketball, mais au football, ça a comme Syracuse est parti, Maryland est parti, puis c'est comme devenu rien. Puis les autres équipes, les écoles se sont dit, ouais, mais nous autres au basketball, on veut rester la Big East, fait que ça existe encore. Donc, oui, c'est déjà arrivé, puis oui, ça devrait encore
être. Je pensais qu'on assistait à quelque chose d'unique, mais finalement, je suis juste trop jeune pour savoir ça.
Ouais.
Ça fait longtemps, ça fait un bout, là. C'est...
Ouais, non, c'est ça. J'étais pas fan à l'époque. Piquant, c'était juste avant que je sois fan de la
Au moins 15 ans.
All right. On va continuer ça avec un petit segment recap. Il y avait eu des petits matchs peut-être intéressants la semaine 0. On va passer ça rapidement. Yes, donc... Semaine 0, derrière nous, rien de super captivant, mais j'ai une question pour chacun de vous. Dion, Notre-Dame l'a remporté facilement contre Navy, on s'y attendait, mais quand même, 42-3. Pour la première fois depuis longtemps, ils ont un excellent QB en Sam Hartman, une grosse ligne offensive, et leur entraîneur-chef, qui doit avoir à peu près 27 ans, Marcus Freeman, est reconnu pour être une bonne tête défensive. Est-ce que Notre-Dame commencerait à assembler les pièces d'un puzzle pour peut-être être une petite carte cachée là, dans le portrait?
C'est un très beau départ. C'est une game qui était pas mal sans anicroche, sans vraiment problème qu'on a vu. Offensive, super productif. Hartman a mené les 5 premières séries offensives à un touchdown, ce qui est un record, je pense, de Notre-Dame. Un QB qui n'est pas flashy et pas un énorme gars, mais super précis, super efficace, beaucoup d'expérience. Du côté du jeu au sol, Audric Esteem a connu un bon premier match comme feature guy. Puis, fait intéressant, j'ai écouté, je parlais voilà, tantôt, le podcast de Josh Pate, The Late Kick. Notre-Dame n'a pas essayé une passe à un tight end de toute la game. C'est quand même surprenant parce que Notre-Dame est quand même reconnu pour avoir des bons tight ends year in, year out. Bonjour Martin, ça va bien. Ils n'ont même pas essayé, fait que je ne sais même pas si comme ils n'ont pas ouvert le playbook tant que ça, mais c'était comme une offensive très méthodique, jeu au sol, passe au wide receiver, wide receivers qui était un petit peu inconnu pour eux cette année. Il y a Jalen Greathouse qui a eu deux touchés. Donc, assez productif. Fait que c'est prometteur. Leur plus gros test va être Ohio State dans 4 semaines, quand même dans un petit bout. Ils vont avoir le temps de se roder et de vraiment développer leur playbook. Mais en tout cas, comme première sortie, c'était super convaincant. Fait que good for them.
Efficace, yes, cool, merci. Mm-hmm. Wallet, de ton côté, j'aimerais que tu me parles de USC. USC qui l'ont remporté 56-28. Contre les Spartans de San Jose State. Les Spartans de San Jose State jouent dans la Mountain West, une équipe du Group of Five. À la fin de ce match-là, je pense que San Jose State était plus heureux d'avoir scoré 28 points contre UCS que UCS d'avoir gagné le match 56-28. Est-ce que la défensive va être encore un talon d'Achille cette année?
Ah, 100%. Puis, tu sais, si San Jose State était une équipe du sommet de la Mountain West, je te dirais, OK, c'est pas si peu, mais c'est une équipe de milieu de peloton. Si c'est pas bas de peloton de la Mountain West, puis le fait que USC se fait mettre autant de points au tableau, ça va ressembler à quoi contre Washington? Ça va ressembler à quoi contre Oregon? Ça va ressembler à quoi contre Notre Dame quand ils vont les affronter plus tard cette année? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bons corps arrière dans la Pac-12. USC vont avoir besoin de mettre 55 points par match minimum pour être compétitif semaine après semaine. Encore une fois, ça va être leur défensive, ça va être leur talon d'Achille. Puis, c'est une bonne chose qu'on n'a pas fait nos prédictions la semaine dernière pour notre top 4 parce que j'aurais peut-être mis USC. Puis là, honnêtement, j'ai des doutes majeurs juste à cause de ce que j'ai vu avec leur défensive la semaine dernière.
Yes, ça va être un walk in the park pour avoir un deuxième ou troisième Heisman pour Caleb Williams s'il a tout bien marqué 56 exact. Points par game. Là, ça va être assez facile pour lui. All right, les boys, maintenant qu'on est réchauffé comme il faut, on est prêt à se mettre la main dans la grosse sauce. On commence ça tout de suite avec la conférence. À Dion, la Big Ten. Évidemment, j'ai dit Big Ten, c'est comme Big Ten à 12 équipes, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Avec un podcast aussi rempli, on va commencer notre segment Thermomètre. Dion, je pense que tu es principalement là justement pour nous parler de ta conférence. D'un point de vue global, les 12 équipes, le portrait pour la conférence.
C'est 14, by the way.
14, excuse-moi. Oui, tu vois, je suis encore pire en masse que je l'étais. Il était 12 avant, puis il y en a deux nouvelles. Fait que là, ils sont 14.
18 l'an prochain, juste pour te mêler encore plus.
C'est bon, j'ai tout. Qu'est-ce que tu penses de la conférence en 2023, là, les 14 équipes de cette année, là, globalement?
Ça ressemble quand même à l'année passée. Je pense qu'il y a peut-être une équipe qui est peut-être montée un petit peu dans les rankings, qui est Penn State, qu'on va parler un petit peu plus tard. Mais c'est sensiblement la même histoire que les dernières années. Deux divisions inégales, la Big Ten East qui inclut Ohio State, Michigan, Penn State, Michigan State aussi, qui est grandement supérieure à l'autre division qui inclut Wisconsin, Iowa, Minnesota, Nebraska, qui est beaucoup plus faible. Donc, ça va être encore pas mal ça qui va créer un peu une disparité quand on va arriver au championnat de conférence. C'est tout le temps l'équipe de l'Est qui gagne ou presque depuis près de 5 ans. L'Est, la division des Buckeyes, de Michigan et de Penn State devrait être extrêmement compétitive. Il y a des grosses défensives là. Question offensive, ça va être intéressant. Ohio State retourne pas CJ Stroud, tu as un nouveau carrière. Penn State débute un sophomore, Drew Allar, qui était 5-star, qui a connu un peu de succès l'an passé, mais qui était comme perdu derrière Sean Clifford, qui est rendu avec les Packers de Green Bay. Donc, il va avoir plus de chances de se montrer cette année. Mais en gros, je pense que c'est quand même, ça reste la deuxième meilleure conférence au pays et de loin. Il y a un bon gap. Puis, ben, le champion de la Big Ten devrait faire les playoffs de façon pratiquement automatique à moins d'un cannibalisme intense dans la conférence Est, dans la division Est.
All right. Toi, Wallet, es-tu d'accord avec le portrait de la Big Ten à ce niveau-là?
Écoute, je ne sais même pas pourquoi je me suis mis dans le pacing pour dire le contraire de Dion. Il a décrit la conférence les bas sur les T, les points sur les I, parfaitement dit.
It is what it is. Ben là, justement, Wallet, si on est pour parler de la Big Ten, à tout seigneur, tout honneur, on va parler, pour commencer, des champions en titre de la Big Ten, donc de Michigan. Pourquoi Michigan a gagné les deux derniers championnats de conférence? Mais surtout, pourquoi ils vont encore gagner cette année? Est-ce que ça a à voir avec le fait qu'ils sont loadés offensivement avec des vétérans?
Écoute, je sais pas si j'ai écrit dans le pacing, là, mais j'ai pas dit qu'ils étaient pour le gagner cette année. Mais écoute, ils sont toujours là. Michigan ont encore une fois une très bonne équipe, ramènent beaucoup de vétérans. Une chose qui va les aider grandement, c'est leur horaire. Ils ont vraiment un horaire qui commence de façon très, très, très facile. Puis ça l'augmente progressivement. Leur mois de septembre, là, juste pour te dire, c'est East Carolina, l'Université de Las Vegas, Bowling Green, puis Rutgers. Facilement 4-0. Je ne sais même pas s'ils vont se faire mettre plus que 10 points par match en défensive contre eux. Par la suite, tu as un mois d'octobre qui commence à se casser un petit peu. Tu affrontes des équipes comme Minnesota, des équipes comme Michigan State qui peuvent t'offrir une certaine opposition. Puis là, tu finis l'année avec deux gros tests en trois semaines alors que tu affrontes Penn State sur la route. Puis, Penn State sur la route, puis Ohio State à la maison. Donc, ça va être vraiment leurs deux gros tests. Ça va être des matchs qui vont être sur nos télédiffuseurs, Penn State, puis par la suite Ohio State. Les deux matchs sont déjà annoncés, vont être à Fox à midi. Ça va être le gros match de la semaine. Michigan devrait se présenter à leur duel contre les Nittany Lions de Penn State avec une fiche parfaite. Je serais vraiment surpris de les voir avec une défaite. Qu'est-ce qui va être intéressant de voir, ça va être vraiment le jeu de J.J. McCarthy. Il nous a montré de belles choses durant la saison régulière l'an dernier. Sans vouloir pointer le doigt envers lui, je pense qu'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas été en mesure de battre TCU en éliminatoire l'an dernier, c'est principalement parce que J.J. McCarthy a fait certaines erreurs. Donc, s'il est capable d'élever son jeu d'un cran, Michigan va être encore dominant, va être une équipe hautement classée toute la saison. On compte sur le retour de Blake Corum qui s'était blessé en fin de saison l'an dernier. Si lui aussi est en santé, ça va être très bien pour l'offensive. Une chose qui est assez importante puis intrigante, j'entendais quelqu'un sur un podcast, puis je suis désolé, je ne suis pas capable de me rappeler c'est qui, mais il disait que parmi les joueurs de ligne offensive de Michigan, il prédit qu'il y en a potentiellement 7 qui vont être dans la NFL l'an prochain, dans des camps d'entraînement. Donc, ça veut dire que tu as des gars qui sont back-up en ce moment, qui ne seront même pas partants, qui verront peut-être pas beaucoup le terrain, qui devraient avoir une chance de faire un alignement partant de la NFL dans un an d'ici, parce que c'est des seniors, c'est des gars qui sont à leur dernière année. Donc, ça prouve à quel point qu'il y a de la profondeur dans cette équipe-là. Tout le crédit revient à Jim Harbaugh, qui a vraiment été en mesure de changer la mentalité de ce programme-là au cours des 8 ou 9 dernières années. Michigan, Dion, c'est dur à entendre pour toi, mais ça va être encore une fois une équipe très difficile à battre cette année avec un offensif qui est bien varié, mais surtout une attaque au sol qui devrait être assez écrasante semaine après semaine.
Ça devrait être illégal, la cédule de Michigan pendant le mois de septembre.
C'est quasiment aussi pire que Georgia.
C'est autant pire que Georgia. Ça n'a pas de Christy de bon sens. Tu joues une game de conférence, puis c'est contre Rutgers. Le restant, c'est des pieds de céleri de Group of Five. Ça n'a pas de bon sens. Fait que bon, si jamais il y a comme une comparaison de strength of schedule, j'espère que les voteurs le prendront en considération parce que Ohio State joue contre Indiana week 1 et contre Notre-Dame week 4. Donc, dans le premier mois, deux adversaires à tout le moins un peu plus intéressants. C'est quand même drôle que tu parles du mois de septembre, le début de l'année, parce que Harbaugh est suspendu pour les trois premières games de la saison.
Ouais.
Ça ne changera pas grand-chose parce qu'il joue contre des pieds de céleri.
Ben, selon Harbaugh, c'est l'équivalent de recevoir un coup de batte de baseball au tibia et non une tape sur le poignet, ce qui est quand même assez drôle.
Cry me a river, John. Ouais. Tu mets de la glace sur ton tibia.
Ben justement, là, parlant de Ohio State, Dion, là, j'ai entendu quelque chose que je trouvais super intéressant, puis je veux avoir ton take là-dessus. J'ai entendu dans un podcast, je ne me souviens plus non plus lequel, qui disait que Michigan avait une équipe bâtie pour battre Ohio State, alors que Ohio State avait une équipe bâtie pour aller chercher un natty, donc potentiellement sortir de la conférence puis battre des plus grosses équipes en dehors de sa propre conférence. Donc, c'est quoi ton feeling? C'est quoi la température pour toi à Ohio State? Est-ce que tu penses que ce statement-là peut être vrai, considérant que l'année passée, en deux games, les deux dernières games de la saison, ils ont accordé genre 87 points puis genre au-dessus de 1000 verges aux équipes adverses? S'ils sont vraiment bâtis pour ça, ça paraît pas, ça se transmet pas là, au niveau défensif.
Ouais, ben je suis très d'accord avec. Puis c'est le podcast Part of My Take de Barstool qui avait.
Non, c'était Unnecessary Roughness. Ah, c'était Brandon Walker.
Ouais, c'était Brandon Walker. Brandon fucking Walker. qui disait que, dans le fond, Ohio State était. On commençait à recruter. Quand Urban Meyer est arrivé, on commençait à recruter au niveau des équipes de la SEC. Ils targetaient les meilleurs athlètes, peu importe, comme ils voulaient vraiment avoir des athlètes partout sur le terrain, de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse. Puis quand ils ont commencé à faire ça, ben, ils ont commencé à torcher Michigan. Comme vraiment, Michigan était comme juste absolument pas capable de match-up avec ce que Ohio State offrait. Ce qui a mené à, je pense, 6 ou 7 victoires en ligne contre les Wolverines. Donc, Michigan était comme vraiment tanné, avec raison. Puis ils ont comme bâti une espèce de blueprint pour contrer ce style-là. Donc, ils recrutaient des joueurs pour contrer ce style-là. Donc, y aller plus physique, contrôler la game, contrôler la ligne de mêlée, tout en ayant des corners qui pouvaient hang un peu avec les receivers de Ohio State. Ça a fonctionné. On a vu que Michigan, contre une équipe, ils ont perdu contre TCU en demi-finale. Ils se sont fait exploser contre Georgia il y a 2 ans, tandis que Ohio State, en demi-finale l'an passé, était à un botté réussi de battre Georgia. Donc, je suis absolument d'accord que Ohio State recrute de façon à gagner le Natty. Michigan recrute plus de façon à gagner sa conférence. Est-ce qu'il y a un qui est mieux que l'autre? Ben, ça dépend, parce que comme pour faire le playoff, il faut d'habitude que tu gagnes ta conférence. State l'an passé n'a pas gagné sa conférence et l'a fait quand même parce que USC choke la merde comme à chaque année. mais si USC avait une défensive qui était un petit peu compétente, il gagnait contre Utah l'an passé et Ohio State ne faisait pas les playoffs. Fait que c'est quand même à se demander comme est-ce que tu es mieux de gagner ta conférence ou d'être potentiellement prêt pour les playoffs. L'an prochain, ça ne dérangera pas parce que 12 équipes vont le faire puis Ohio State, peu importe qui perdra Michigan chaque année, il serait top 12 anyway, fait qu'il serait dans ce playoff-là, fait qu'il serait en mesure. Fait que, tu sais, est-ce que Michigan, leur style smash mouth, control the ball, va marcher dans des playoffs plus gros?
Plus long.
Plus long, plus demandant, mais ça va être à voir, ça va être intéressant. Mais c'est un bon point qui a été amené par Unnecessary Roughness et Brandon Walker, que les deux équipes ont recruté différemment pour différents buts. Maintenant, à voir si Ohio State va, s'il serait qu'à perdre cette année encore, une troisième année consécutive, là, est-ce qu'il va y avoir un petit shake-up, ils vont vouloir comme changer leur approche pour battre Michigan parce que ça reste un des buts premiers du programme, c'est gagner cette partie-là.
Yes. Ben là, on a parlé, tu as parlé de l'Est tantôt, la division qui était la plus forte de cette conférence-là. On a parlé des deux grosses équipes, Michigan et Ohio State. J'aimerais t'entendre parler de Penn State, parce que là, j'entends beaucoup de hype présentement autour du programme de Penn State avec le QB Drew Aller qui arrive là. Ça a l'air, s'il est capable de faire autant preuve de talent et de potentiel que le hype qui est autour de ce gars-là, ben je ne sais pas d'où vient ce gars-là, je ne sais pas c'est quoi le hype qui explique ça, mais j'en entends parler partout. Donc, est-ce qu'il pourrait peut-être voir les Nittany Lions, est-ce qu'il pourrait voir à surpasser Ohio State ou Michigan, voir avoir une shot à la finale de conférence? Puis on le sait que s'il y a une shot à la finale de conférence, on l'a dit tantôt, c'est quasiment sûr qu'il passe au-dessus de l'Ouest. Puis est-ce que cette victoire-là, si elle se concrétise, pourrait les amener jusque dans un top 4?
Potentiellement. Puis, dans le fond, Drew Aller, c'est qui? Ben, Drew Aller, c'est un 5-star QB qui était freshman l'an passé, qui va être un true sophomore cette année. 6'5", 2'43". Donc, toute une shape pour un sophomore. Mais on t'a 19 ans, comment t'es cette shape-là? mais vraiment, Josh Allen, genre de physique, là, vraiment, capable de bouger, gros bras. Fait que, en termes de talent de QB, c'est pas fou de dire qu'il est meilleur que le QB ou il est plus talentueux que le QB de Ohio State et Michigan. Question de potentiel et qu'est-ce qu'il peut faire. Fait que c'est sûr que c'est super excitant. Porteur de ballon, Nick Singleton, très belle saison l'an passé, un porteur physique, 6 pieds 224. Fait que tu sais, t'as ce gars, t'as le QB à 2,43, t'as le running back à 2,24, tu peux faire des choses intéressantes dans le backfield. Puis t'as un receveur senior qui est Andre Lambert-Smith, qui pourrait avoir une saison vraiment intéressante. Fait que t'as comme un petit peu un triple threat en offensive qui permet de faire des choses vraiment intéressantes. Et faut pas oublier nos big boys, un des meilleurs left tackles du prochain repêchage. Je m'essaye. Olemu Yiwa Fashanu. Donc, c'est son nom.
C'est mieux que ce qu'on ferait.
c'est son nom. Left tackle qui est considéré comme un choix de top 10, top 15 pour le prochain repêchage. Donc, tu as vraiment des éléments très intéressants en offensive. Défensive, c'est un petit plus anonyme. Il y a comme pas tant de gars qui ont sauté à mes yeux. Ils ont perdu Joey Porter Jr. qui a été drafté en deuxième ronde l'an passé. Fait que je pense que ça va être plus du côté défensif que faut que ça soit sharp parce que s'ils veulent battre Ohio State et Michigan, ben les deux offensives sont très compétentes. Ils ont montré l'an passé qu'ils pouvaient scorer contre tout le monde. Il va falloir qu'ils keep up. Mais en termes de potentiel, en fait, si tu checkes comme Drew Aller et Nick Singleton, c'est peut-être pas cette année, c'est peut-être l'an prochain qu'ils vont vraiment comme step up leur game, mais on pourrait voir cette année un beau potentiel qui s'installe pour Penn State.
C'est ça. On peut dire que le coach Franklin, il a comme rassemblé le plus grand potentiel au niveau du talent, ouais, dans le fond, que les Penn State n'ont jamais eu là, à se mettre sous la dent là, depuis leur 9-7
ouais, Happy ouais, Valley. Question de talent, là, surtout poste de QB. Porteur de ballon, il y a eu des très beaux running backs à Penn State, Miles Sanders, Saquon Barkley. Mais au poste de corps arrière, c'est le meilleur QB que Penn State a eu depuis vraiment longtemps. Là, fait que ça pourrait être une bonne année.
Cool. Bon, on va parler de trois clubs de la division S. Là, je comprends bien que la division Ouest, c'est un tas de pistes, mais il va falloir quand même en parler un peu. Wallet, ça serait qui pour toi les prétendants dans l'Ouest cette année?
Ben, les prétendants, c'est assez simple. Selon moi, il y a une équipe que je vois, puis c'est les Badgers du Wisconsin. Tu regardes l'horaire, tu regardes les équipes qu'ils vont affronter, tu regardes les autres équipes dans la division. Les Badgers ont un gros match à leur horaire cette année. C'est un duel à la maison contre Ohio State. Ce ne sera pas facile pour les Buckeyes, puis ce ne sera pas facile non plus pour Wisconsin. Je m'attends à quand même un très bon match de football là, la dernière fin de semaine là, du mois d'octobre. Les Badgers, on le sait, ils vont pouvoir compter sur leur nouvel instructeur, Luke Fickell, qui a quitté Cincinnati pour joindre les Badgers. Ça, c'est un gros move pour l'université. C'est un gars qui s'est prouvé. Là. Il a amené Cincinnati il y a de ça moins de 2 ans. En éliminatoire, ce qui était du jamais vu, une équipe du Group of Five en éliminatoire. Là, tu as de la grosse argent, tu as l'argent de la Big Ten, le contrat de télé avec Fox puis CBS qui rapporte encore plus d'argent à l'école pour aller chercher des gros joueurs dans le transfer portal. Puis c'est un peu ça qu'ils ont fait. Wisconsin n'avait pas vraiment de corps arrière dominant, ben, on est allé chercher un transfert en Tanner Mordecai. Si c'est un nom qui vous dit de quoi, ben, vous ne vous trompez pas parce qu'il a joué 3 ans à Oklahoma avant de faire le transfert à SMU. À Oklahoma, il ne voyait pas beaucoup le terrain, mais à SMU, il a connu quand même 2 belles saisons. Il a lancé pour plus de 3000 verges back-à-back. J'ai hâte de voir c'est qui son receveur de choix parce que c'est un transfert, puis sur les 3 receveurs partants, tu as 2 transferts aussi. Donc, la chimie va devoir se faire en début d'année. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il va pouvoir compter sur le support de l'excellent Braylon Allen, le porteur de ballon de 3e année de Wisconsin. C'est un gars qu'on a vu spécialement son année recrue en 2021 là, qui faisait vraiment tourner des têtes. Je m'attends à une grosse saison, encore une fois, de Braylon Allen. Peut-être sa dernière saison NCAA avant de faire le saut vers la NFL. C'est un gars avec un potentiel relativement incroyable, selon moi, qui potentiellement, puis peut-être que je parle trop vite, là, mais c'est potentiellement le meilleur porteur cette année au collège football. Un gars de 6'2", 2'45", un gros gars. Un gars qui s'est pas blessé souvent non plus durant sa carrière, qui est resté relativement en santé, sauf quelques matchs l'an dernier. Donc, je m'attends à ce que Wisconsin domine dans la conférence de l'Ouest. À moins que je me trompe, Dion, corrige-moi, mais je ne vois pas vraiment d'autres équipes qui pourraient potentiellement rivaliser avec les Badgers.
J'avoue que c'est une... Ben, je vais y aller avec... Il faut qu'on parle de Iowa, qui sont toujours... Ouais. C'est incroyable.
J'ai une anecdote, si tu le dis pas. Mais
c'est le nombre de points qu'ils ont accordé.
Ouais, vas-y. Comptez. Ben, en gros, comment?
Vas-y.
Ben, le coach, je me trompe bien, c'est Luke Ferentz. Ouais. Il a engagé son gars pour être le coordinateur offensif. Mm-hmm. Puis, il doit mettre un nombre minimum de points au tableau à chaque semaine pour ne pas perdre son poste. C'est quand même assez...
Il gagne 7 games. Il faut qu'il mette 25 points par game puis qu'il gagne minimum 7 games. Sinon, en fait, il a demandé une révision de son contrat pour
c'est
à la base.
Bien drôle, ça.
Il faut qu'il atteigne ces thresholds-là pour qu'il retourne à ce qu'il était avant.
Aïe, all right. Fait que, ben, non, moi, mon call, c'était que je pense que depuis 4 ans, comme Iowa, en moyenne, n'accorde pas plus que 20 points par game, comme ils sont super constants sur le côté défensif, ils sont pas capables de scorer des points pour sauver leur vie. Fait que, bon, QB transfert, Cade McNamara, ancien de Michigan, pour ajouter un petit peu de...
Un 7 QB qu'il y avait l'année passée.
Ouais, ça c'est clair. Fait que ça va être à voir, mais tu sais, Iowa, ça va être quand même une équipe qui va être dans la course au championnat de leur division. Fait que c'est pas mal une des seules. Sinon, ben, Minnesota, j'aime beaucoup. Puis, ben, PJ Fleck est un petit peu dans l'eau chaude. Bon, on n'a pas parlé dans les nouvelles, mais ça a l'air qu'il y aurait une espèce d'ambiance, d'intimidation dans son équipe. Mais Minnesota sont toujours bien coachés. Fait que ce serait pas mal l'équipe qui m'intéresse. Pas Nebraska, parce que Matt Rule, c'est un imbécile. puis,
un tight end aussi.
Ouais, le tight end, Eric Gilbert, est aussi un imbécile. Il ne sera pas dans l'équipe cette année, je crois.
Quel talent gaspillé.
Donc, en gros, c'est ça. Je pense que c'est une des divisions comme les plus boring au college football. La Big Ten West, là, c'est quand même assez fascinant à quel point c'est des équipes.
C'est pour ça que j'ai quand tu le disais en joke, puis tu sais, je sais que c'est une joke un peu. L'Ouest est tellement mauvaise que c'est dur de dire que la Big Ten est au même niveau que la SEC, mais l'Est est tellement forte, puis leur top 3 est tellement fort que tu peux avoir un argument, puis on pourrait avoir une discussion là-dessus, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont meilleurs que la SEC. Potentiellement, c'est assez fou de penser là, que la Big Ten S vont probablement avoir 3 équipes en décembre qu'on va dire hey, est-ce que ces 3 équipes-là méritent d'être en série, puis il y a 4 spots.
Ouais. Je pense que la Big Ten S puis la SEC, c'est l'Alabama, là. C'est très similaire. Comme c'est vraiment des conférences, des divisions qui sont similaires. Comme le niveau de compétition là-dedans est vraiment. C'est cutthroat. Là. Comme quand tu viens dans tes games de conférences, t'as pas beaucoup de place à l'erreur. Fait que...
All right, parfait. Ben, on va y aller tout de suite avec des petites prédictions au niveau de la Big Ten. Quelle équipe, selon toi, disons, va te décevoir dans la Big Ten là, overall?
Décevoir, je vais y aller avec Wisconsin. Comme je pense pas que j'y crois tant que ça, pas cette année. Je veux dire, au poste de QB, c'est quand même une bonne interrogation. Tanner Mordecai, je me sens que je suis pas tant confiant envers ce gars-là. Oui, Brennan Allen, c'est très bon. Fait que je pense en prendre une couple d'années avant que Fickell mette son grain de sel là-dedans. Fait que je pense que Wisconsin va décevoir. Je pense pas qu'ils vont gagner leur division. Comme c'est ça. Je pense que c'est le but. Puis moins que ça, ce serait un peu une déception pour Wisconsin cette année. Je pense que c'est vraiment l'objectif. C'est gagner leur division. Puis je pense pas qu'ils vont le faire. Fait que ça serait Wisconsin pour moi.
Tu vois, moi, c'est l'équipe que je pense qu'il va décevoir, ça va être Iowa. Donc là, c'est les deux équipes au top de ça, Wisconsin versus Iowa. Parce que ultimement, Iowa, dans le fond, leur potentiel offensif est comme pas là, je pense. Il n'est pas capable de autant rivaliser dans cette conférence-là nécessairement. Donc, je crois pas en ce qui... pas en ce qu'ils ont fait, là, mais je veux dire, tu sais, qu'il faut que tu mettes des nombres mineurs. Je pense que le genre de contrat que leur OC a signé, là, qu'il faut que tu mettes un nombre minimum de points et tout le kit, ça va tellement le faire freaker, ça va tellement le faire faire des bad calls à des moments. Il faut tout le temps que tu sois capable de garder ton composure, puis d'y aller pour 3 points quand c'est important, puis faire ci, puis faire ça. Mais le gars, il va vouloir marquer son nombre de points. Fait que je pense que ils ont pas assez de tu sais, là, oui, je sais que McNamara est arrivé, mais ils n'ont pas de constance au poste de corps arrière. T'as un nouveau QB dans ton système. Là, ton OC va vouloir, qui est jeune, qui est déjà... jeune de base, pour vouloir marquer trop de points. Fait que je pense que ça peut être un cocktail explosif là, au niveau de Iowa, donc créer évidemment une déception à ce niveau-là. Donc, est-ce que ça va être assez l'arrivée du QB pour être capable de relancer leur jeu aérien pour être capable de marquer 25 points? Je ne suis pas sûr. Puis je pense qu'il y a trop d'éléments à ce moment-là qui vont comme, faire en sorte que ça va chier de ce côté-là, je pense. Toi, Wallet, quelle équipe tu penses qui va te décevoir?
Écoute, faut que j'y aille avec un coup de circuit ici. Je pense que c'est Penn State. Les attentes sont tellement élevées. On entend parler de Drew Allard, ça fait 3 mois. On dit d'eux qu'ils vont rivaliser avec Michigan puis Ohio State. Puis j'ai aucune misère à croire qu'ils vont rivaliser contre ces deux équipes-là. Mais en ce moment, beaucoup de gens les mettent dans le top 4 de fin de saison. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont être en éliminatoire. Moi, je pense que ça va être une équipe qui va finir avec la saison avec une fiche de 9-3, 10-2, se faire inviter au Orange Bowl puis avoir une belle saison. Mais les attentes en ce moment sont tellement élevées que j'imagine mal Penn State. James Franklin, un bon coach, mais j'ai pas encore vu ça. Je me trompe peut-être, mais j'ai tendance à être d'accord avec ce que Dion a dit tantôt. C'est une équipe qui est jeune. C'est peut-être en 2024 là, qu'ils vont vraiment prendre de l'avance puis être un peu plus dominants.
Tu vois, je vais devancer la prochaine question tout de suite avec quelle équipe, selon nous, allait être la surprise. J'étais supposé te renvoyer la question, Wallet, mais je vais répondre moi en premier parce que moi, j'ai pris Penn State comme étant l'équipe qui va créer la surprise dans la Big Ten. Puis la raison est simple. J'étais d'accord avec ce que Dion disait tantôt, pardon, à propos que c'est une équipe un peu plus jeune, mais que le talent est là avec des recrues. Mais il y a comme. C'est un couteau à deux tranchants à avoir des recrues parce que souvent on dit qu'ils sont inexpérimentés, mais en même temps, ils sont tellement innocents qu'ils ont comme pas le même niveau de stress habituel comparativement à les gros matchs. Le seul point négatif que je vois dans un peu le portrait de Penn State, c'est vraiment leur schedule, là, dans le fond, leur horaire qui est un peu plus difficile, mais en même temps, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent contrôler. Donc, ils sont capables de gérer leur performance à eux, autant offensif que défensif, puis juste se dire, peu importe qui est devant nous semaine après semaine, on va être capable de leur piler des points en face, puis on va prendre notre QB 5-star, puis on va y faire garocher des ballons à gauche puis à droite. Ben, si Nick Singleton est capable de pile-up une couple de touchés par la course, je pense qu'il pourrait être une surprise, puis ça serait une surprise majeure, parce que là, tu viendrais brouiller les cartes entre Ohio et Michigan, tu te ramasserais en finale pour potentiellement gagner ta conférence, chose qu'on a dit que c'était possible de faire. J'aimerais ça que la surprise soit Penn State, parce que si la surprise est Penn State, ça va tellement chier le portrait dans la Big Ten, parce que tout le monde met son 10$ sur Michigan, puis tout le monde met son 10$ sur Ohio State. Là, t'as juste Penn State qui serait juste comme « Hey, on est les négligés », c'est un peu le concept du underdog. Mais nous autres, on est là, puis on call présent. Fait que je trouve que ça serait une belle histoire pour eux, surtout d'être une surprise là, cette année. Mais si on y va avec ta surprise, Wallet, je m'excuse, je ne l'ai pas cassé ta déception, mais pour moi, ça serait une belle surprise. Ça serait qui ton équipe qui serait ta surprise à toi?
Écoute, une surprise, j'ai de la misère à en voir. Là. Je pense que les équipes vont vraiment terminer dans un ordre un peu qu'on s'attendait. Peut-être une surprise, encore une fois, un peu de négativité. Là. Je pense que Rutgers, une équipe qui nous avait montré de belles choses il y a de ça, deux ou trois saisons avec Greg Schiano quand il avait commencé avec l'équipe. Je ne serais pas surpris que c'est une équipe qui prenne du recul, encore une fois, termine potentiellement dernier dans la conférence. Donc, une surprise négative, une deuxième déception. Je ne vois pas de surprise dans cette division.
OK. Dion, ta surprise?
C'est-tu juste dans la division?
Non, ouais, c'est les deux, la Big Ten. Ah.
OK. Tu as dit tout à l'heure, Faf, on a parlé de Michigan, on a parlé de Ohio State. On n'a pas parlé de Ohio State, pas tant que ça. On a rien qui parlait un petit peu. Ma surprise de l'année, c'est que Ohio State bat Michigan à la maison.
Ouh, donc, dans le Big House.
Dans le Big House. Donc, on n'a pas parlé encore beaucoup du roster. C'est quand même ma spécialité. Mais à part CJ Stroud, Ohio State retourne 100% de son talent offensif. Marvin Harrison et Mecca Abuka, les deux meilleurs receveurs, les porteurs de ballon reviennent tous. Les tight ends reviennent tous. Donc, toutes les temps offensives reviennent. Donc, si le carrière, Kyle McCord, peut être juste efficace, ça va bien aller. Puis, la défensive retourne beaucoup, beaucoup de talent également. La D-line devrait être améliorée. La tertiaire devrait être améliorée. Deuxième saison dans le système du DC Jim Knowles. Donc, je m'attends à une équipe qui va peut-être être un petit peu plus balanced que par les années passées, qui ne va pas nécessairement essayer de scorer trop rapidement, mais qui va être capable de le faire quand ça compte. Fait que je pense que ça va être une année meilleure contre les Wolverines. Donc, Ohio State bat Michigan à la maison. C'est ma surprise de l'année.
All right, c'est bon. Ben, ça fait le tour de tout ça. Pour compléter, si c'est ça ta surprise, je vais te lancer la question. Qui remporte la Big Ten avec une victoire face à qui au final?
Je vais aller avec Ohio State contre Iowa.
OK.
Et la victoire des Buckeyes, bien sûr.
Wallette, qui bat qui pour le final de la conférence?
The Ohio State contre Wisconsin.
Bon, ben moi, je vais chier toute la patente. Je vais y aller avec Nittany Lions, Penn State, qui va se battre contre Wisconsin en finale de la conférence. Puis le gagnant va se ramasser dans le top 4. Parce qu'on l'a dit, c'est la deuxième meilleure conférence au monde. Donc, c'est sûr et certain que le gagnant de cette conférence-là a son droit de passage, a sa clé pour se ramasser dans le top 4. Évidemment, maintenant, dans le segment thermomètre, on garde le meilleur pour la fin. on va y aller avec la meilleure conférence de l'univers, la SEC.
SEC.
Donc, évidemment, en parlant de la meilleure conférence au monde, il fallait réserver un hommage à cette meilleure conférence-là. Donc, messieurs, je me suis permis d'écrire une petite prière. Cher Dieu du football, notre père de la Southeastern Conferences qui règne sur la NCAA, que ton Crimson Tide vienne, que leur victoire soit faite sur le terrain comme au ciel chaque samedi sacré. Donne-nous cette saison notre sacre tant attendu. Donne-nous aujourd'hui notre touchdown quotidien et pardonne-nous nos défaites comme nous ne pardonnons à nos rivaux. Ne nous laisse pas succomber au piège de l'adversaire et guide-nous toujours avec détermination. Car c'est les Bulldogs qui nous défient et qui nous tourmentent. C'est l'ennemi redoutable, le rival éternel. Avec force et détermination, nous l'affronterons de tout cœur pour la bataille ultime où seul le meilleur triomphe. Pour toi est la passion, la gloire et le combat. Dans l'enceinte sacrée où les foules se rassemblent, depuis les Gators jusqu'aux Aggies, nous sommes liés par la foi à la SEC, notre foyer, notre chemin vers le succès. Et délivre-nous de Georgia. Amen.
Go Tigers.
C'était, il y avait de l'émotion là-dedans.
Ah, mais là, il y a vraiment un vendetta contre Georgia, j'aime ça. Il n'a même pas parlé de LSU.
J'avoue, c'est clair.
Je ne voulais pas te faire la bête. Donc, évidemment, tous les yeux seront tournés vers les champions en titre Georgia qui ont déjà deux championnats en poche. Et si... Il pourrait marquer l'histoire moderne, en fait, avec justement un fameux three-peat, donc trois victoires consécutives. Dion, selon toi, c'est quoi le pourcentage de voir Georgia accomplir ce fameux three-peat?
Historiquement, c'est bas. Comme c'est très, très peu. Ben, c'est déjà arrivé, mon historien, ce soir-là.
Moderne, non. Je pense dans le college football playoff, là, dans le portrait. Là,
c'est ça, c'est jamais arrivé, non, mais dans l'histoire, il y a sûr, peut-être non? Princeton à l'époque là, qui ont. qui ont gagné, ouais. je te rends ça.
C'est bon, tu me rendras ça. Fait historiquement, ben, c'est bas, les chances que ça arrive. Fait que, tu sais, j'irais avec comme un 15%, 20% peut-être, si on va entendre de pourcentage. Tu sais, Georgia, ils ont perdu encore une fois beaucoup de monde au draft. C'est normal, ça reload. Mais là, cette année, ils ont quand même perdu leur carrière d'expérience. Ils ont perdu beaucoup, beaucoup de talent défensif. Du côté des receveurs, c'est peut-être un peu suspect. Ils ont quand même Brock Bowers, qui est le meilleur tight end et un des meilleurs joueurs de la NCAA au complet. Fait que je pense que ça sera peut-être trop difficile, mais bon, comme leur conférence, c'est pas mal. Leur division est pas mal open à eux autres. C'est pas super talentueux. Fait que tout ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est passer à travers le champion de l'autre division parce que leur cédule est vraiment, vraiment facile. Fait que leur cédule est bonne pour ça. Fait que je vais aller avec un 20 à 25% que.
J'ai la réponse. Oui. Il y a Princeton dans les années 1800 qui ont remporté 4 fois en ligne, mais sinon, dans l'ère moderne, dans le FBS, le plus, c'est 2 consécutifs. Par contre, dans le FCS, Appalachian State a remporté 3 fois consécutives de 2005 à 2007, qui est quand même intéressant.
Yes.
Tu l'as parlé, tu l'as dit, ouais, Dion, en parlant de Georgia, comme quoi que ben, sortir champion de la West, ça allait potentiellement être facile avec leur horaire Piece of Cake. Et quand vient le temps d'affronter ce qui est dans l'Ouest, par exemple, ça c'est un autre paire de manches, parce que dans l'Ouest, au contraire complètement de la Big Ten, la division S a présentement 4 équipes classées dans le top, dans le top 25 là, à l'heure où on se parle. Donc, Wallet, de ton. Parle-nous justement, est-ce que les Bulldogs ont de l'opposition dans leur propre division? Parce qu'on sait que c'est l'Ouest qui est boosté dans la SEC. Ça serait qui l'opposition des Gators, pas des Gators, pardon, des Bulldogs?
Des Bulldogs.
Dans la
réponse, ce n'est pas les Gators. Je pense que l'opposition, ça va être la même que l'an dernier. Ça va être les Volunteers du Tennessee, mais encore là, j'ai hâte de voir la transition. On le sait, ils ont perdu Hendon Hooker aux Lions de Détroit. Ils ont aussi perdu Jalen Hyatt, leur receveur étoile, aux Giants de New York. Donc, on se retrouve avec une situation intéressante dans le fait que Joe Milton est maintenant leur corps arrière partant. Joe Milton, la raison qu'il est au Tennessee, c'est parce qu'il n'était pas capable d'être partant au Michigan parce qu'il manque de précision. Le gars a un bras canon, peut lancer des passes de 70 verges, mais ça l'arrive souvent dans les mains de l'adversaire. J'ai hâte de voir. S'il est capable de trouver une certaine connexion, une certaine chimie avec un de ses receveurs partants, Brew McCoy, Ramel Caton ou Squirrel White.
What? Squirrel?
Squirrel White, très bon nom. S'il est capable de trouver une connexion, puis il est capable d'aller chercher un petit peu plus de précision dans ses passes, il y a un potentiel. On le sait, Josh Hopple, leur instructeur-chef, nous l'a montré dans les dernières années, il est bon pour bien développer des corps arrière. S'il est en mesure de transformer Joe Milton en corps arrière précis, ça va être une certaine opposition. Par contre, Tennessee ont quand même un horaire difficile cette saison. C'est un horaire où tu affrontes Texas A&M, tu te déplaces sur la route pour affronter Alabama, puis tu as aussi un match sur la route au Kentucky qui n'est jamais vraiment facile. C'est une équipe qui grind beaucoup. Donc, je m'attends à ce qu'ils s'en fassent une ou deux fois. Est-ce qu'ils vont être capables de donner de l'opposition à Georgia rendu à la fin novembre? Potentiellement, mais je pense que Georgia devrait remporter l'Est assez facilement.
Ouais, avec la perte de Hooker et avec la perte de Jalen Hyatt, là. Bonne chance en Mississippi. En tout cas, j'ai peut-être une petite, je suis peut-être un petit peu aigre à propos de cette équipe-là. Là. On en parlera un peu plus tard. Donc, de mon côté, messieurs, je vais vous expliquer pour moi pourquoi Alabama is back. Alabama is back parce que là, ça fait trois années, ça fait trois longues et pénibles années qu'ils n'ont pas gagné un championnat national. C'est-à-dire, depuis que je suis devenu fan de cette équipe-là, je ne les ai jamais vu gagner un fucking natty. Puis je vais vous répondre à pourquoi Bama is back. La réponse est bien simple. La réponse répond, se résume en un petit mot, Nick. Nick Saban. Nick est à sa 17e saison à la tête de l'Alabama, 28e saison en tant que head coach et a une fiche en carrière de 280 victoires, 69 défaites et un petit match nul. Donc, c'est sûr et certain qu'on ne peut jamais considérer coach Saban comme mort et enterré. C'est sûr et certain que cette année, c'est... Tu sais, on parle de ça comme si c'était la fin du monde, mais l'année passée, ils ont fini 11-2. Là. Ils ont échappé deux victoires contre des équipes de la SEC. Ça a fait de la peine à bien du monde, mais ils ont quand même gagné le Sugar Bowl, se sont quand même rendus à bien positionner. Ils n'ont juste pas fait le top 4 pour se classer à ce moment-là. On oublie quelque chose aussi, c'est qu'en arrière de Jahmyr Gibbs, qui est parti dans la NFL, il y avait quand même Jace McClellan, j'ai son nom, je ne suis pas capable de le prononcer, qui est un running back qui a quand même réussi à pile up 10 touchés pendant la saison. Donc, avec plus de temps de jeu, d'après moi, il va être capable de prendre le contrôle de ce qui se passe dans le backfield. Après ça, la vraie question, c'est savoir qui est-ce qui va prendre la place au poste de corps arrière. C'est là qu'il va falloir se trouver une réponse. Ça, j'ai pas de problème. C'est le point d'interrogation présentement qu'il va falloir y répondre. Côté défensif, tu as le meilleur cornerback au pays qui a le meilleur nom au pays. Comment tu veux perdre avec Cool Ale McKinstry? McKinstry? Tu peux pas perdre avec ce cornerback-là. Je suis pas capable de le prononcer. J'ai pas dit que j'étais bon pour les prononcer. J'ai dit qu'il était cool. Je vais l'appeler Kool-Aid, ça va être plus facile comme ça. Mais évidemment, c'est un futur first rounder. Il y a Will Anderson Jr. en défensif qui est parti aussi, mais il y a quand même Dallas Turner, un linebacker qui va venir prendre la place, qui en deux ans préalablement a quand même connu des statistiques de 12,5 corps à peu près. Donc évidemment, le mystère vient au niveau du tout ce qui est au niveau offensif. On ne sait pas c'est qui est QB. Le running back, j'ai parlé de son nom, mais on ne l'a pas vu avoir un load de travail. Les receveurs sont à se questionner. Mais évidemment, le point d'interrogation, c'est le côté offensif. Mais l'autre chose, en regardant les statistiques, que je me suis rendu compte, c'est que même avec Jahmyr Gibbs dans le backfield, même s'ils ont couru la balle comme des défoncés l'année passée, ils n'ont quand même pas fini dans le top 5 en running de foot, tu sais, comme en course avec le ballon. Donc, c'est sûr que cette année, s'ils vont vouloir être capables de descendre un peu les scores des games pour donner une chance à leur défensive, peut-être étirer le temps, scorer moins de points, mais le faire de façon plus efficace. Donc, c'est la raison pour laquelle. Ah ouais, mais le Texas, ça, c'est un walk in the park, Martin. Là, ça, c'est juste pour dire qu'on va aller se réchauffer contre des petits. des petits QB recrues. Hein.
Shots fired deux semaines en avance.
Mais la seule raison que je suis triste d'avoir manqué le podcast la semaine passée, c'est que j'ai pas pu chier sur toutes les équipes du Texas pendant qu'on a parlé de la Big Ten.
Pendant 2 heures. Donc, voilà pourquoi Bama is back. Parce que Nick Saban, honnêtement, historiquement, est un monstre. Donc, va être capable de reload cette équipe-là. Tout le monde le dit, là, que les cas d'entraînement de Saban sont les plus difficiles, que c'est lui qui est le plus rigoureux, c'est lui qui est le plus intense. Donc, l'équipe va arriver prêt au premier match de la saison. J'ai pas de crainte avec ça. Dion, avant de passer la parole à Wallet qui nous pète les oreilles avec LSU pendant 2 heures, parle-moi d'une équipe dans l'Ouest qui peut rivaliser avec mes éléphants à Alabama.
Les éléphants de l'Alabama. Ouais, mais intéressant, Alabama, cette année, par contre, parce que ça va être... J'ai entendu dire de certaines de mes insiders que ça pourrait être une O-line assez exceptionnelle. Donc voilà. Question à rivaliser avec Bama cette année. Parlons de... LSU, voilà, va en parler comme vraiment beaucoup, j'imagine. Il n'y a pas, à part LSU, parce que LSU, c'est intéressant, mais je vais laisser Wallet parler de son équipe. Il n'y a pas une équipe qui m'inspire tant que ça, cette division-là, qui pourrait vraiment les challenger. On parle de Texas A&M encore, qui sont comme les underachievers assez classiques avec Jimbo Fisher qui n'est vraiment pas... quelqu'un qui me demande si on croit en Jésus. On croit-tu? Mais on parle de la SEC en ce moment. On n'a pas le choix de dire qu'on croit en Jésus.
Il a entendu ma prière et j'ai fait spawner.
c'est sûr que c'est genre l'algorithme de YouTube qui t'a entendu faire une prière. Et puis, Christ, un podcast religieux. Il croit en Jésus. Malade. Donc, pour ceux qui ne catchent pas là, sur le chat live, quelqu'un t'a demandé « Y'all believe in Jesus our Lord? » je trouve ça vraiment très drôle. Pour parler de Texas A&M, c'est intéressant à quel point comme Jimbo Fisher est sur le hot seat présentement, avec tous les millions qui lui sont accordés. Je pense qu'il faut que l'équipe step up. Qui va step up, par contre? Ils ont un sophomore QB qui rentre, Connor Weigman, présentement sur le depth chart. Je ne le connais pas vraiment, j'ai pas entendu vraiment parler de lui. Il y a comme beaucoup de jeunesse sur le roster. Je pense que ce serait une équipe qui pourrait peut-être potentiellement surprendre, mais ça semble être la division de Alabama cette année. Puis ça se peut qu'Alabama n'ait peut-être pas l'air d'équipe super dominante en début de saison, mais je pense que c'est une équipe qui peut comme ramp up un peu à chaque semaine, devenir meilleure. Je pense que c'est quand même, c'est Bama's division to lose.
Ouais, c'est ça. All right. Wallet, je sais que tu vas essayer de me vendre ton équipe, que tu vas me dire que LSU va finir dans le top 4, mais comment tu peux aspirer à finir dans le top 25 alors que ta défensive n'est même pas dans le top 25 des défensives de la Ligue, et ça depuis plus de 5 ans? Donc, pour aider la cause, cette année, tu as seulement 4 partants qui reviennent en défensive. On le sait, Defensive Wins Championship. Donc, je vais reprendre ma question. Pourquoi LSU va finir en dehors du top 25, Paulette?
C'est assez simple. Ils ne termineront pas en dehors du top 25. Puis, la raison pourquoi que ça a changé depuis 5 ans, c'est que coach Ed Orgeron, même si on aimait le caractère, la mascotte qui était, le personnage qui était, on a un instructeur-chef qui est beaucoup mieux en Brian Kelly. On est allé chercher des joueurs d'impact de d'autres équipes. Je pense à un gars comme Deuce Chestnut, qui est un cornerback. On l'a vu l'an dernier, il jouait pour Syracuse. Pour ceux qui ont regardé les matchs de Mathieu Bergeron, il a fait le transfert vers LSU. C'est un excellent joueur. Je pense aussi à un gars comme Jordan Jefferson, qui est un defensive tackle, un excellent joueur qui vient de West Virginia. Tu prends ces deux gars-là, puis tu rajoutes ça à une défensive qui était pas exceptionnel, mais qui avait de très, très bons talents, comme Major Byrne, mais surtout, potentiellement, le meilleur joueur défensif au pays, Harold Perkins Jr. Je pense que tu as un noyau qui est intéressant. Puis, tu rajoutes à ça une offensive complètement incroyable. L'offensive de LSU devrait être capable de mettre des points au tableau. je parle pas comme un fan de l'équipe, là, je parle en fait. Je regarde un gars comme Jaden Daniels qui a connu un lent début de saison. J'ai l'impression qu'il va connaître encore une meilleure saison. Sa cible de choix cette année, ça va être encore une fois Malik Nabers qui a connu une belle fin de saison 2022. Tu rajoutes à ça une ligne offensive avec beaucoup de talent. Un gars comme Emory Jones Jr., le right tackle de l'équipe, là, qui est. Puis Will Campbell, pardon, les deux tackles de l'équipe, là, c'est deux potentiels All-American à la fin de la saison. Je pense que LSU ont vraiment une belle équipe pour rivaliser contre Alabama, mais j'ai tendance à être d'accord que c'est la division à Alabama à perdre. Puis la seule chose qui me fait peur un peu de LSU, c'est que le gros hype, puis la raison pour que tout le monde les mette aussi haut dans leur classement, c'est parce que justement, ils ont battu Alabama l'an dernier. Ils se sont fait détruire contre Tennessee, puis ils se sont fait détruire contre Georgia. Donc, je me garde une petite gêne. Je pense que LSU vont avoir une bonne équipe. J'imagine mal LSU finir top 4. Une équipe qui pourrait finir au Orange Bowl contre Penn State. ça serait les aspirations.
C'est ça que tu aimes pour l'instant. OK, parfait. Ben,
j'espère que je me trompe, mais c'est ça que je
comprends. Voilà. Dion, dans la SEC au complet, quelle équipe va décevoir et pourquoi c'est LSU?
Non, je ne serais pas qu'elle est dessus. Je pense que ça va être Florida. La raison, c'est qu'il y a quand même un bon exit de talent, particulièrement leur QB, Richardson, qui a été drafté. Ils ont Graham Mertz, transfert de Wisconsin, mais pas un QB qui m'inspire beaucoup de talent. Fait que je pense que Florida va encore être... C'est une équipe qui a beaucoup de... d'influence, qui a beaucoup de budget, qui a beaucoup de talent supposé, mais ça fait quand même plusieurs années que c'est dans au neutre, si on veut. Là. Fait que je pense qu'ils vont décevoir cette année. Puis ça va être potentiellement la pire équipe de la Floride entre eux, Miami et Florida State. Fait que ça va être les Gators pour moi qui déçoivent.
Yes. OK, ben moi si j'y vais avec l'équipe qui va me décevoir. Pour moi, pour qu'il y ait une déception, il faut qu'il y ait un hype autour d'une équipe. Présentement, je m'explique mal le hype autour de Tennessee. Tantôt, tu as parlé que ça allait être potentiellement celui qui allait donner le plus d'opposition à Georgia dans l'Est, qui allait pouvoir potentiellement leur damer le pion rendu là. Mais je ne crois pas présentement à Tennessee. Je ne crois pas à... je pense qu'ils sont overrated complètement. Je l'expliquais tantôt. Ils ont passé leur QB, ils ont passé leur meilleur receveur. Ça va être dur de répéter ce qu'ils ont fait l'année passée. S'ajoute à ça que leur défensive a été la 127e pire défensive dans tout le college football playoff sur 132 équipes. Là. Fait qu'ils n'ont pas de défensive, puis ils viennent de perdre le noyau de leur cœur offensif. Je pense, puis là, présentement, tout le monde, malgré ça, tout le monde les met top 12. Là. Puis on en parle tantôt comme étant les prétendants à peut-être donner du fil à retordre à Georgia. Je pense que ça va être une déception pour moi parce que c'est sûr qu'ils n'y arriveront pas à ces expectations-là. Fait que pour moi, ça va être directement dans la déception. Wallet, déception dans la SEC?
Ouais, mon choix aurait été aussi Tennessee, mais étant donné que je ne veux pas qu'on soit trop répétitif, je vais y aller avec Texas A&M. Texas A&M, depuis l'arrivée de Jimbo Fisher, on lui a donné un sac d'argent qui est ridicule. On a recruté des joueurs 5 étoiles un après l'autre, puis à chaque année, on déçoit. Le nerf de la guerre, oui, tu as besoin d'avoir une bonne défensive, mais au college football, tu as besoin d'avoir un bon corps arrière. Puis, j'ai pas vraiment confiance en Connor Wakeman. Tennessee, qui sont actuellement classés dans le top 25 pré-saison, qui sont 23e, c'est très bas. Mais c'est une équipe qui, année après année, on dit « Ah ouais, Texas A&M, ils peuvent surprendre, ils ont plein de five-stars. » Mais les five-stars se transforment jamais en five-stars rendus sur le terrain, puis ils transfèrent vers d'autres écoles. Donc, les Aggies de Jimbo Fisher, Texas A&M, et ma déception en 2023.
Puis, si on y va avec les équipes qui vont nous surprendre, Wallet...
Moi, je suis obligé d'y aller avec les Bulldogs de Mississippi State, tant plus aussi longtemps que Will Rogers va être leur corps arrière partant, même si avec le décès de coach Mike Leach, l'équipe devrait avoir une philosophie offensive un peu différente. Avec un joueur comme ça dans ton équipe, tu ne peux pas négliger l'impact qu'il peut avoir sur le terrain, le nombre de verges qu'il va être en mesure de mettre au tableau semaine après semaine, le nombre de touchés qu'il va lancer. Donc, je suis obligé d'y aller avec les Bulldogs de Mississippi State comme mon équipe surprise.
All right. Dion, ton équipe surprise, pourquoi?
Ben, je pas une huge surprise, mais puis avec Auburn, les Tigers d'Auburn, beaucoup de transferts du côté offensif de la balle. Mm-hmm. Peyton Thorne, le carrière, qui pourrait faire des belles choses, des transferts au poste de receveur aussi. Fait que, pas pour dire qu'ils vont gagner la division, là, mais ça peut être une équipe qui gagne 7-8 games, ce qui n'est pas arrivé depuis un petit bout. Fait que, je vais avec les Auburn et les Tigers de Auburn.
Puis, faut le dire, disons, je veux juste rajouter Hugh Freeze, qui est leur instructeur-chef, qui est de retour dans la SEC après un passage à Liberty. Il a pris Malik Willis, puis il l'a transformé en choix de première ronde dans la NFL. Puis, je pense que Malik Willis est comme troisième dans le depth chart des Titans du Tennessee, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce qu'il va être en mesure de faire avec Thorn? Moi, ça m'intrigue. Je pense qu'il y a un potentiel d'être assez intéressant là, en 2023.
M'a checké, mais je pense que Malik Willis est devant M. Banane.
Will Levis.
Will Levis, m'a checké. Les Titans, Depth Chart. Moi, je pense qu'il est encore devant.
OK.
M'a aller checker, il ne sera pas long. Il est deuxième. Donc, M. Banane, troisième. Will Levis. Wow. OK, voilà.
All right. moi, je vais vous parler d'un joueur pour vous parler de ma surprise. C'est une équipe qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais en faisant mes recherches sur les QB, vous connaissez mon amour pour les corps arrière, Mac Attack. Je vais vous parler de KJ Jefferson, le QB de Arkansas, les Razorbacks de Arkansas. Un grand bonhomme de 6 pieds 3, 247 livres. Une belle chaîne de middle linebacker, si vous voulez mon avis. Donc, je pense que si on veut s'attendre à une surprise, évidemment, même principe, faut regarder c'est quoi les expectations. L'an passé, Arkansas, on finit 7-6. Moi, je pense que si jamais on est capable de passer... Déjà que Jefferson, l'année passée, connaissait des matchs de 300 verges par la passe ou par la course là, combinée. Donc, je pense que le succès de cette équipe-là va passer par le bras et les jambes de Jefferson. Donc, si on est capable de le mettre en valeur, je pense que Arkansas pourrait peut-être créer une genre de semi-petite surprise dans la division qui est déjà assez, qu'on parlait tantôt, s'auto-cannibaliser. Donc là, si ça commence à perdre entre eux-mêmes, mais peut-être qu'Arkansas va réussir à commettre un ou deux upsets qui va peut-être les pousser vers le top. Donc, sans nécessairement finir au top de l'Ouest, parce qu'évidemment, c'est Bama qui va finir là, mais quand même, ils pourraient créer une surprise là. Présentement, ils sont unranked, donc peut-être finir dans le top 25 à la fin de la saison. Donc, pour finir rapidement, à qui gagne contre qui? Dans cette conférence magistrale. Wallet.
The Alabama Crimson Tide remporte la conférence contre les Bulldogs de Georgia.
All right. Dion, qui remporte contre qui?
Je vais y aller avec la même chose pour être plate.
OK, mais tu sais, moi, vous savez, les gars, je connais pas ça. Je me fie à votre jugement et à votre connaissance de ça. Fait que je vais dire comme vous. Je vais dire que Bama remporte ça contre Georgia. Et ma prière aura été entendue par les dieux comme par les suiveurs sur YouTube qui viennent nous poker à propos.
Merci
de
d'avoir
Jesus.
Prié, Dry Bones.
Jesus our Lord. All right. On va continuer ça avec un petit segment rapide pour overview tout ce qui se passe dans la NCAA, là, nos attentes d'ici la fin de saison. Commencer avec notre segment préféré. Yes! Donc, le segment out of the box, nos prédictions... Sur un paquet.
Si un jour on fait un live, on va-tu pouvoir faire jouer cette tune-là en background pendant comme deux
tout
heures?
Tout le long. C'est sûr qu'on va se faire copy strike, mais je sais pas. C'est l'heure des prédictions. On a discuté depuis les trois derniers podcasts de chacune des conférences, de chacune des divisions, des équipes, ces choses-là. Mais là, on va se pencher sur quelque chose de plus concret et de plus global. Donc, première question. Messieurs, avec l'arrivée de Matt Rhule, de Luke Fickell, quelle équipe aura le plus de succès cette année? Wallet.
Ben écoute, Dion l'a dit tantôt, il n'est pas un fan de Matt Rhule. Je l'ai dit tantôt, je suis un fan de Luke Fickell. Je pense que ça va être les Badgers du Wisconsin avec Luke Fickell.
Yeah. Dion, même affaire, parce que t'as eu un ou parce que t'aimes plus l'autre?
j'aime Luke Fickell. J'adore qu'il s'est fait à Cincinnati. Fait que j'aime un, j'aime l'autre. L'autre qui... Je suis intrigué de savoir comme ça, de quoi son contrat avec les Panthers présentement, là, parce qu'il restait comme... 30 millions à se faire payer. Là, fait que je ne sais pas s'il paye encore ou si c'est.
Il me semble que c'était ça la clause, c'est que s'il revenait, il perdait son contrat.
Ah, il perdait le contrat. Fait que, en tout cas, bon, peu importe, il freeload pas, là, mais c'est un cave pareil.
D'accord. Donc, si on continue avec des coachs, Dion, Mel Tucker à Michigan State, Brent Venable à Oklahoma et Billy Napier en Floride. C'est les trois coachs qui sont grassement payés dans des universités majeures. Les trois ont déçu en 2022. Donc, si je te demande de me faire un fuck, marry, kill, qui c'est que tu voudrais pour cette année, fuck, qui c'est que tu voudrais pour la fin de ton programme à très long terme, marry, puis qui c'est que tu voudrais tout de suite crisser à la porte? Dion.
Pour tout de suite, c'est intéressant comme question. Pour tout de suite, je parlerais Mel Tucker, parce que je fuckerais Mel Tucker, parce que je pense qu'il y a quand même une espèce de d'aura qui peut attirer du monde. Je marierais Brent Venable, je pense qu'il va être capable de faire de quoi au long terme, ça va prendre un petit peu de temps à Oklahoma, je pense que ça va être correct. Puis Billy Napier, j'y crois pas, comme j'ai rien contre, mais je pense pas que Billy Napier va faire de quelque chose avec Florida, là. Je pense pas que c'est pas sa place. Là.
C'est pas sa place. All right. Toi, Wallet, ton fuck, marry, kill?
Moi, j'ai le même Mary que Dion. Je pense que Brent Venable avec Oklahoma, sur le long terme, il y a du potentiel. Billy Napier, c'est un gars qui il a connu une grosse saison à Louisiana, puis c'est pour ça qu'il s'est ramassé en Floride. Donc, je vais avec mon F-word avec lui pour la simple et unique raison que, peut-être pas cette année, mais d'ici 2 ou 3 ans, il peut sortir une grosse saison. Puis Mel Tucker, depuis qu'il a eu son gros contrat, ne fait que décevoir. Non seulement il déçoit, mais tu sais, dans la hiérarchie de la Big Ten, tu as Ohio State, puis après ça, tu avais 3 équipes. Ben là, tu as Michigan qui s'est mis 2e. Là, tu as Penn State qui est 2e. Puis Michigan State, sont loin 4e. Je pense que Mel Tucker, l'université, regrette potentiellement ce gros contrat-là à long terme.
All right. Wallet, je continue avec toi. On a parlé pendant qu'on a découpé les top 25 qu'on avait agglutinés la semaine passée. Florida State se retrouve 8e, en 8e position présentement du top 25, du AP top 25. Est-ce que tu penses que Florida State peut surprendre la planète football, faire des séries et gagner un Natty cette année?
Surprendre potentiellement, gagner le Natty, je crois pas. Pardon, je crois pas.
All right, Dion, Florida State.
Écoute, ce serait le fun parce que ça serait une nouvelle équipe dans le portrait, mais j'ai hâte de voir comment. J'étais pas là la semaine passée pour la ACC. Il y a bien du hype sur Florida State, tandis que comme ils n'ont rien montré de vraiment constant depuis plusieurs années. Fait que j'ai hâte de voir. Oui, il y a du talent, là, je le comprends, pas de savoir, pas de QB, mais. Je pense à une année comme normale pour Florida State, que je pense pas qu'ils vont surprendre grand monde.
Average at best. OK, parfait.
Ouais, non.
Dion, on a parlé quand on a parlé de ces équipes-là, mais il y a des situations qui sont quand même intéressantes au niveau des corps arrière pour Bama, Ohio State et Georgia. Et malgré le fait que les situations, là, je pense que même Ohio State n'avait pas encore élu, c'était qui leur QB partant encore. Là, on en avait
Il est nommé depuis aujourd'hui.
OK, c'est ça. Il a été nommé aujourd'hui. T'sais. Fait que la vraie question, c'est de savoir est-ce que ça va impacter tout ça? Est-ce qu'on va avoir. Quelle de ces équipes-là va avoir le meilleur en 2023, premièrement? Puis ça va-tu faire descendre ça? Puis on va avoir un tout nouveau top 4?
En termes de stats, ça devrait être celui d'Ohio State, juste à cause des receveurs qui l'entourent. Mais en termes de meilleur leader, ben, le gars de Bama, c'est supposé être Jalen Milroe, donc le thick boy de l'an passé. Il y a quand même des bons quads. Je pense que Nick Saban va l'avoir quand même groomé pour être un bon leader. Fait que je pense que ça pourrait être lui qui est un genre de Jalen Hurts. Moins, il est peut-être pas aussi bon que Jalen Hurts, mais je pense qu'il pourrait être ce genre de leader-là. Je dirais que Jalen Milroe de Alabama pour le meilleur leader.
Yes, 6 pieds 2, 220, des bons jambons, j'aime ça.
Oui.
Toi, Ouellette, quelle équipe aurait le meilleur meneur de jeu en 2023, selon toi?
Je pense que le meilleur, puis regarde, je vais répondre un peu à question 5 en avance. On est à la question 4 pour ceux qui suivent ça. Moi, c'est Carson Beck de Georgia. C'est un gars qui est une recrue, c'est sa première année, mais de ce que j'entends, il y a beaucoup, beaucoup de gens autour du programme de Georgia, incluant Aaron Murray, qui est une légende au programme des Bulldogs de Georgia, qui dit que Carson Beck, c'est le meilleur corps arrière recrue à porter l'uniforme des Bulldogs. il compte sur la présence de Bauer, le Titan tout étoile dans son équipe. Est-ce que je m'attends à ce qu'ils mettent plus de statistiques au tableau que le QB d'Ohio State? Potentiellement pas, mais je m'attends à ce que ce soit un joueur qui connaisse une saison exceptionnelle, d'autant plus que Georgia ont une horreur facile, donc devrait mettre beaucoup de points au tableau semaine après semaine.
All right. Puis, parlant de cette fameuse question 5-là, Dion, je vais te la renvoyer. Est-ce qu'il y a un joueur qui n'est pas connu de la masse présentement? On sait que tu es un érudit des joueurs et dans les équipes. Donc, qui va se faire un nom en 2023, selon toi, qu'on ne connaît pas encore?
Moi, c'était la question-là, j'avais comme pas eu le temps de me préparer tant que ça.
Moi, chérie, pendant que tu fais des recherches, moi, j'avais Carson Beck, le carrière de Georgia, qui devrait être un joueur que vous connaissez pas en ce moment, que vous allez entendre parler beaucoup cette année. Puis, étant donné qu'on parle souvent des offensives, ben, je me suis gardé une petite place pour un joueur en défensive. J'y vais avec la recrue d'Alabama, le safety Caleb Downs. Le gars va être partant. Le gars était au secondaire l'an dernier, il va être partant cette année. Puis j'ai même entendu certaines comparaisons avec le seul et unique Minkah Fitzpatrick pour Alabama. Donc c'est une très, très grosse comparaison pour le jeune homme. On a beaucoup d'attentes envers Caleb Downs. Je m'attends à une grosse saison recrue pour lui. Puis il devrait se faire un nom dans le domaine du college football très, très, très rapidement.
Good. Ben, si on parle de Florida State il y a quelques minutes, s'ils sont pour vraiment surprendre et vraiment s'imposer comme une équipe surprise, on va aller avec leur receveur qui est un freak, Johnny Wilson, qui est 6 pieds 7, 235 livres.
Ouais,
il est tight end. Non, il est receveur, tu sais, comme. Whatever, c'est un. Mm-hmm. Il pogne des balles puis il est gigantesque. C'est pas mal l'histoire. Là. Fait que Johnny Wilson, ça pourrait être un nom qui monte dans les draft boards.
All right. On va y aller. Je vais m'emmêler de celle-là, la question 6, à savoir qui finit dans le top 4. Je vais commencer, je vais ouvrir le bal. Donc, je vais parler de Georgia, évidemment. Je vais évidemment parler de Penn State, parce que Penn State vont gagner la Big Ten. Puis on a dit que le gagnant de la Big Ten se ramassait directement dans une place dans le top 4.
Écris ça qu'il y a de pas faire. Hein? On s'en reparle en décembre.
T'effaces les pacings au fur et à mesure. Fait que c'est parfait, je peux dire ce que je veux. Il n'y a pas de problème. Donc, Georgia, Penn State, évidemment, Alabama et LSU va se tailler une place là, parce que la meilleure conférence au monde dans la SEC n'a pas le choix d'avoir deux équipes dans le top 10.
Tu as dit quoi? Georgia, Penn State?
Oui.
LSU?
Non, ouais, et puis Alabama.
Tu as trois équipes de la SEC?
Oui. Peur de rien. Ouais, là, on l'a dit, là, il a resté du monde sur Twitter. Là. Les top 25 de début de saison, ça veut rien dire. Fait que les top 4 de début de saison, ça veut rien dire non plus.
Là, c'est la prédiction du player.
Ouais, oui, ça, c'est ça que tu le prédis.
Oui, mais il n'y a pas une équipe du Big 12 qui va venir se pointer le nez là. Il n'y a pas une équipe du Pac 12 qui va soudainement arriver et qui va se tailler un nez là-dedans et qui va se tailler une place et qui va aspirer à être meilleur. Il n'y a pas de Texas qui vont sortir un Longhorn de leur chapeau et qui vont réussir à se rendre là. Moi, je crois pas à ça. Moi, les playoffs, je veux voir les meilleures équipes au pays à la fin de la saison, ça sera ces trois équipes-là. Même s'il y en a trois qui viennent de la SEC, j'ai pas de problème avec ça. Ça serait une première. Wow. Ça serait rare. Ça serait impossible, probablement. Mais les vrais savent. Toi, Wallet, c'est qui ton top 4 de fin de saison?
OK. En numéro 1, j'y vais avec les Buckeyes de Ohio State. Mais je miserai pas sur eux parce que ça va jamais bien. Deuxième position, Crimson Tide d'Alabama. Pour finir l'ère des éliminatoires à quatre équipes, j'y vais avec un classique. On a eu souvent Ohio State, on a eu souvent Alabama. Je pense que les Tigers de Clemson, avec leur défensive complètement ridicule, se faufilent en éliminatoire avec une troisième place. Puis, ma quatrième position, les Huskies de Washington, qui se faufilent en éliminatoire aussi.
OK, c'est bon. Toi, Dion, ton top 4?
Intéressant. Numéro 1, je vais aller avec Bama, qui fait le numéro 1. Numéro 2, les Buckeyes d'Ohio State. Et numéro 3, ça me fait mal de le dire, mais je pense this is the year, les Longhorns du Texas.
Oh.
Et ils vont me décevoir, c'est sûr. Numéro 4, ils vont le faire encore, Michigan.
Wow.
All right. Fait que moi, j'écoute toutes nos prédictions, puis je trouve que la mienne n'est pas si dérangeante que ça comparativement à celle de tout le monde. Je suis dans avec ça. Wallet, sans gagner nécessairement le Heisman, qui sera le joueur par excellence de 2023, selon toi, puis pourquoi c'est Caleb Williams?
Ben, Caleb Williams, parce qu'il va falloir qu'il marque 75 points par semaine avec 8 touchés puis 700 verges pour que son équipe reste dans les matchs. Le joueur par excellence de 2023 va être sans aucun doute et sans aucune compétition Marvin Harrison Jr.
Et voilà. Dion,
t'as l'air d'accord avec le projet?
Oui, fun fact, on aime les fun facts sport lucide. Kyle McCord, qui a été nommé QB de Ohio State partant cette semaine, a été au secondaire avec Marvin Harrison Jr. Donc, j'imagine que la connexion est pas mal établie. Donc, Marvin Harrison Jr. devrait être le joueur le plus dominant sur le terrain en 2023.
Ben là, moi, je suis pas d'accord avec tout ça parce que je pense qu'on parle beaucoup de QB, on parle de Marvin Harrison Jr., toute l'équipe, mais Drake May, le bon vieux Tar Heel là, qui est là puis qui il était en discussion pour le Heisman l'année passée pour toute l'équipe là, 6 pieds 4, 230 livres de pur muscle, il y a une petite bédaine. S'il est capable de connaître une saison, s'il est capable de faire sortir North Carolina de flasher en fait là, au sein de la ACC, d'après moi, son nom peut être dans la discussion, puis on va pouvoir en parler comme le joueur par excellence qui a réussi à faire mettre North Carolina sur la map. Donc, moi, ça va être avec lui que je vais y aller. Finalement, en finale, le Natty, le dernier college football playoff à 4 équipes, qui remporte ce fameux dernier college football à 4 équipes, selon vous, Dion, commençant par toi?
Écoute, ça fait 3 ans que t'attends, Faf, en tant que bandwagon jumper as fuck. Tu vas avoir ton natty du Crimson Tide cette année. Avec un jeu au sol physique et dominant.
Contre qui?
On va me faire une ring. Ouais, contre qui?
Là, mon top 4, j'ai mis... Ouais, à côté Buckeyes, go.
T'en face avec
t'as t'en faire mal à Nasty.
Il a dit ça, puis il a vomi un peu dans sa bouche.
Je me pointerai pas à ce podcast-là.
On va le faire direct de chez vous. On va arriver avec les hélicoptères, là, puis on va cogner dans la fenêtre. L'histoire va tout être fermée, genre. Dion, t'es-tu là? Dion, on veut tes commentaires à chaud. Dion, t'as-tu quelque chose à dire? Allez-vous-en chez nous. Bon. Toi, Wallet, qui gagne le Natty?
Le Natty va être les champions qui auraient dû être les champions en 2022. Les Buckeyes de The Ohio State l'emportent en janvier prochain contre les Tigers de Clemson.
All right, parfait. Moi, évidemment, je vais y aller avec Bama. Puis j'aimerais ça que ça soit contre Georgia qui gagne en finale. Mais c'est peu probable, mais ça serait intéressant. On va y aller avec le dernier segment rapidement. Comme on l'a dit au début, on n'a pas des matchs exceptionnels sur nos écrans, mais on a 5 jours de football. On aura du football jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Hey, c'est une semaine de travail, ça, 5 jours. Là. Puis du football à tous ces soirs-là. On va y aller avec... ce sera sûrement le meilleur Thursday Night Football de l'année. Avec la game de jeudi soir, Florida versus Utah. Utah qui sont 14e au pays présentement sur TSN à 20h. Wallet, parle-moi de cet affrontement-là.
Ben écoute, on en a parlé un peu, le Florida, c'est une équipe qui a déçu là, l'an dernier. C'est une équipe qui devrait décevoir. Là. Dion a dit que c'était pour être la pire équipe dans la SEC. Par contre, Utah, qui ont quand même une belle équipe, ils ramènent beaucoup de partants. Cam Rising devrait être à son poste comme corps arrière partant. Je m'attends à un match intéressant. En début de saison, c'est facile. On fait des analyses, on parle des équipes, on se dit « Ah, cette équipe-là devrait décevoir ici puis ça. » Mais il suffit que Florida se présente là avec un corps arrière qu'on ne connaît pas en ce moment, un corps arrière qui n'a rien prouvé. Puis boum, il remporte ce match-là. Par contre, là, pour les pronostics en ce moment, Utah est favori par environ un touché. Puis on dit que c'est un match qui va se jouer avec en bas de 45 points. Donc, attendez-vous pas à un festival offensif. Mais pour commencer la saison, un bon vieux duel du jeudi soir là, dans le college football, Ça devrait être intéressant. Puis, c'est à Billy Napier de nous prouver qu'il mérite son F-word ou son fuck dans mon fuck Mary Kill.
All right. Le samedi 2 septembre, sur le réseau Fox, à midi, dans les premières games de la journée, il y a Colorado, l'équipe à Monsieur Prime, qui s'en va rendre visite à TCU. Dion, ça va-tu être le début de la fin? Pour Colorado, ça va être le début d'une histoire à succès impossible.
Ben, ça, sont négligés par 20 points. Fait que ça, on peut peut-être pas s'attendre à une victoire.
Vegas knows.
Ça serait un upset. Mais bon, TCU, ranked 17e par AP Poll, mais quand même, les participants du College Football Playoff et les finalistes du National Championship l'an passé, c'était une performance pathétique au National Championship, mais quand même, ils se sont rendus. Fait que c'est une équipe qui est bien rodée, qui a un très bon coach. Ils ont perdu des morceaux, mais devrait être assez solide. Pour Colorado, ben, un joueur peut-être à voir si vous voyez cette game-là sur les zones de Fox, Travis Hunter, qui est corner, receveur, sûrement retourneur de punt et de kick-off aussi, ben, devrait être partout sur le terrain. Fait que ça devrait être un prospect NFL, mais ça devrait être une victoire assez facile de TCU. À voir comment que Coach Sanders gère son équipe sur le terrain, comment ça va.
Ça va être impressionnant de savoir s'il va vouloir se mettre de l'avant.
Ça va être un peu un cirque, on verra. Mais c'est quand même intéressant à voir comme la première game de Deion Sanders dans une conférence Power 5 NC.
Yes, Wallet à 19h30 sur ABC et TSN, North Carolina, 21e avec Drake May aux commandes. Ils s'en vont rendre visite à South Carolina. Semaine 1, déjà, c'est-tu une rivalité, genre, Carmine Nord-Sud, semaine 1, ils nous sacent ça dans la TV.
Ouais, c'est pas rare que les deux équipes, je l'ai vu plusieurs fois dans le passé, le North Carolina qui affronte South Carolina, première game de l'année, c'est pas leur plus grosse rivalité à chacune des deux équipes, mais ça reste une certaine rivalité entre deux États là, qui se voisinent. Comme tu viens de le dire, Drake May du côté de North Carolina, qui a connu une belle saison l'an dernier, les attentes envers lui sont très élevées, son opposé, Spencer Rattler, pour ceux qui l'auraient oublié, après un séjour là, qui s'est mal terminé avec Oklahoma, il a mal aussi commencé sa saison 2022 avec les Gamecocks de South Carolina, mais il a fini tout feu tout flamme avec des victoires coup sur coup contre Tennessee puis Clemson, deux équipes qui à l'époque étaient classées dans le top 10. Donc, je m'attends à un duel de corps assez intéressant. C'est toujours aussi le fun là, de voir une équipe de la SEC comme les Gamecocks de South Carolina qui sont milieu de peloton affronter North Carolina qui, eux, sont vus comme une des meilleures équipes de la SEC. Question là, de comparer les forces en présence d'une conférence à l'autre. Le over-under ici est à 64,5. Je trouve que c'est quand même faible considérant que les défensives souvent ne sont pas très bien rodées en début de saison. Puis tu as deux corps arrière qui sont capables de mettre des points. North Carolina sont favoris par 2,5 points malgré le fait qu'ils sont sur la route. C'est joué dans le stade des Panthers de la Caroline, donc un stade neutre. Moi, je pense que les Tar Heels l'emportent, puis je vais miser le over de plus de 64,5 points.
Yes. De mon côté, je vais vous parler de West Virginia qui s'en va rendre visite à Penn State. Ça va être sur nos écrans à 19h30 sur NBC. Donc, ça va être disponible au Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Mountaineers de West Virginia n'ont pas rendu visite, n'ont pas affronté Penn State depuis 1992. C'est quand même une rivalité parce que c'est deux équipes qui sont quand même régionalement assez proches. Donc, cette visite-là va peut-être tomber à plat un peu là, parce qu'on sait que Penn State sort d'une saison de 11 victoires, 2 défaites pour une victoire au Rose Bowl l'année passée, alors que West Virginia a fini 5-7. Donc, c'est peut-être une rivalité ou un duel au sommet qui n'aura peut-être finalement jamais lieu. Mais ça pourrait setter le ton pour justement la fameuse offensive de Penn State qu'on parlait, la fameuse surprise de Penn State que je vous parlais depuis le début. Le spread est à 20,5 points, donc plus que 3 touchés pour Penn State. Je pense qu'ils vont couvrir le spread assez facilement. Et évidemment, le over-under est à 50 points, donc je pense que Penn State, avec leur offensive explosive, vont être capables de répondre là, à cette commande-là là, du over-under à 50,5 points. Dimanche 3 septembre, jour de mon anniversaire, Wallet. Qu'est-ce qu'il y a de bon à mettre sous la dent pour ma fête? Pas un duel entre LSU et Florida State à 19h30 sur ABC. Parle-moi-en.
Écoute, probablement le match de la fin de semaine. Là, pour ceux qui l'avaient regardé l'an dernier, les deux équipes s'étaient affrontées aussi en début de saison le dimanche soir. Puis ça avait été un match assez exceptionnel. C'était un match qui s'était terminé. Là, LSU avait une possibilité de remporter le match sur un botté de placement en toute fin de match, puis on l'a manqué. Ça va être différent. Les équipes sont beaucoup plus matures qu'ils l'étaient l'an dernier. Les offensives devraient connaître un bon match. L'over-under dans ce match-là est de 56,5 points. Je m'attends à peut-être plus de points que ça. LSU sont favoris par seulement 2,5 points. Là, c'est un match qui est joué sur un terrain neutre, mais qui est joué à Orlando, donc qui est joué dans la cour arrière des Seminoles. Moi, j'ai de la misère à croire que les Seminoles, qui ont autant de hype, pourraient échapper ce match-là dans leur cour. Mais si le hype de tout le monde envers LSU, que tout le monde donne à LSU, pardon, est vrai, écoute, ça devrait être un match qui va être exceptionnel. Ça devrait être un bon Sunday Night Football. Attendez-vous à avoir beaucoup de points, selon moi.
Le meilleur de la saison. Yes. De ton côté, Dion, lundi, en ce jour de congé de fête du travail, Clemson va rendre visite à Duke. Clemson qui sont 9e. Tantôt, Wallet en a parlé, potentiellement une bonne défensive. Il y a quand même un over-under à 55,5. Qui tu vas gagner de ce match-là? C'est sûr, c'est pas Duke, mais autant de points.
Ben, Duke, c'est comme négligé par 9 ou par 12,5. C'est sûr que c'est pas 20 points. Fait que, ça se peut. Mais ben Clemson, je pense qu'il faut qu'il parte sur une bonne note. C'est une game de conférence. Kaya Cade Klubnik devrait faire son entrée officielle en tant que partant d'Impact dans la ACC. Fait que je pense qu'il devrait avoir une bonne performance. La défensive de Clemson devrait garder ce match-là en contrôle. Pour Duke, j'ai pas beaucoup d'attentes. J'ai pas eu vraiment le temps de savoir qui est bon pour Duke cette année. Plus une équipe de basket, tant qu'à moi, mais en tout cas, on verra. Mais je pense que ça devrait être un bon test pour Clemson en partant, pour voir si sont vraiment comme de calibre, c'est l'équipe top 10 et potentiellement gagner leur conférence. Fait que, à voir pour le potentiel de cette équipe-là pour les semaines prochaines.
Yes, sur nos écrans aussi, je ne les ai pas tous nommés, on s'est concentré sur l'analyse des matchs principaux, mais jeudi, il y a Nebraska contre Minnesota à 20h sur Fox. Vendredi, Louisville contre Georgia Tech à 19h30 sur TSN. Samedi, il y en a un puis un autre à midi, Virginia, Tennessee. 15h30, Boise State, Washington. À 13h30, Ohio State, ton équipe, Dion, qui va aller affronter Indiana. As-tu un mot à donner à ton équipe à ce niveau-là? C'est quand même un match de conférence. Ça va-tu être tough ou...
Non, ça va pas être tough.
Ça va être très drôle de voir le thème sonore de CBS pour la première fois avec un match de la Big Ten. Juste pour ça, je vais regarder le début de match. Ouais.
All right. Rice s'en va rendre visite à Texas 11e. On va voir ces fameux. C'est finalement l'année de Texas avec Martin qui est bien ben hype sur son équipe à 15h30 sur Fox. Tennessee State contre Notre Dame. Notre Dame, à savoir ce qu'ils vont être capables de poursuivre leur lancée qu'ils ont établi la semaine passée contre Army. 15h30 sur NBC. Army, justement, s'en va rendre visite à UL Monroe. C'est sur nos écrans. C'est sur NFL Network, quand même intéressant pour le samedi. On voit qu'ils n'ont pas de vrai football à passer. Fait qu'ils passent le football de la NCAA puis ils passent des estimés de piste. Ça veut dire que sont dans le trou en tabarouette. Texas State va rendre visite à Wyoming à 19h30 sur CBS. Ça, c'était juste pour la journée de samedi. Donc là, c'est un vrai samedi d'NCA, messieurs. Ça commence en grand. Ça roule. Oui, on en a pendant 5 jours, mais samedi, t'en as à tous les postes, à tous les abonnements ou les vols de signal satellite que tu peux faire sur YouTube. Dimanche, on a Northwestern contre Rutgers à midi. Oregon State contre San Jose State. On en a parlé tantôt. De San Jose State à 15h30 sur CBS.
Ça va être intéressant de comparer San Jose State contre Oregon State après avoir vu San Jose contre USC. Sans dire que, vous l'avez dit souvent, la règle de 3 ne s'applique pas au football, ça nous donne quand même une petite idée de « OK, la défensive de USC est vraiment pas bonne » ou finalement « OK, San Jose State sont peut-être pas si pires que ça en offensive. »
Ils sont peut-être meilleurs qu'on pense. Yes. Bon, les boys, c'est It's a Wrap. Merci beaucoup de votre temps ce soir. C'était super agréable et très apprécié. Évidemment, on s'attend à avoir une saison exceptionnelle. On s'attend à ce que les fans soient au rendez-vous ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé dans le chat. Merci à Drybone pour ta question sur Jésus. Super apprécié, très honnêtement. Quand on a commencé à faire le segment Fuck, Marry, Kill, là, je me disais qu'après avoir dit le mot Fuck 3 fois, on aurait peut-être des sponsors de sex shop, quelque chose. Je sais pas, là. Je demande là, ou des propositions indécentes de certaines... certains bots féminins sur nos différentes plateformes. Mais il faut croire qu'on n'est pas encore rendu assez grand pour ça, messieurs. Juste mon esti Twitter personnel, que j'ai plein d'esti comptes de bots de filles qui viennent me liker, puis ça me met à bout parce que là, je le bloque parce que je suis tanné de recevoir ces invitations-là. Mais là, j'ai pas les invitations des vrais gens qui pourraient potentiellement être intéressés à discuter de football ou discuter de choses comme ça. Donc là, j'ai débloqué ma demande d'adhésion, puis là, ben, ça vient de recommencer. Là, la dernière fois, j'en avais eu genre 17, là j'en ai 3 à soir. J'étais à bout, les gars. Les filles me lâchent pas. Je suis plus capable. Messieurs, mille fois encore, merci pour tout ça. On se reparle à une prochaine fois. On devrait être au rendez-vous à peu près tous les mardis au courant de la saison. Je pense qu'il y a des congés qui se sont demandé ces choses-là. Dion, comme on l'a expliqué, ça allait être une surprise de temps en temps. Des fois, il va être là au complet. Des fois, il va être là pour une petite chronique peut-être, un petit interlude intelligent dans le podcast entre deux morons. Ça peut toujours faire du bien. Chers auditeurs, merci encore une fois beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à nous suivre. Faites des follow, faites des likes. Donnez-nous 5 étoiles sur toutes les plateformes où nous écoutez. Jusqu'à la prochaine fois, je vais vous dire, soyez sages, aimez-vous, passez-vous la soirée en terre. Bye-bye!